France Culture. Cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Viscose. Aujourd'hui, nous allons pouvoir emballer. Emballer des côtes de veau et emballer les corps, hein, car il n'y a qu'un pas entre la rayonne, la fibre textile tirée de la viscose, et la cellophane qui emballe les produits alimentaires dans les rayons des supermarchés. C'est l'histoire de la soie artificielle où l'on croise aussi des ailes d'avion et des parachutes. Quand l'industrie ose la viscose, la soie artificielle rayonne et, couverte de viscose, cette histoire a tout pour nous emballer.
La soie n'étant qu'une gomme liquide qui se dessèche, ne pourrions-nous pas, nous-mêmes, faire de la soie avec nos gommes et nos résines? Mais comment tirer ces vernis en fil?
Oui, comment? Le tout n'est pas d'avoir une bonne idée, il faut essayer de la mettre en pratique.
Ça, c'est sûr. Moi, si j'avais été monsieur Dré au mur...
Oh, ne t'avance pas trop, ce n'était pas si facile que cela.
Mais enfin, on a peut-être tout de même réussi.
Veux-tu que nous allions voir?
Mais oui, nous voulons aller voir. Hervé Joly, bonjour.
Bonjour.
Historien, directeur de recherche au CNRS. Avec ce mot viscose qu'il faut peut-être définir, qu'est-ce que la viscose?
Alors, la viscose, c'est la soie artificielle qu'on n'a plus pu appeler comme cela à partir de 1934. Alors, on peut encore employer ce terme en studio. Je pense qu'aujourd'hui, on ne risque pas de poursuite. Mais en tout cas, à partir de 1934, il avait été interdit par une loi d'utiliser cette appellation soie artificielle. Alors, c'est un petit peu comme le steak végétal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a interdit l'appellation steak végétal parce que c'était détourner le mot steak. Et bien là, c'était pareil. C'était, même si on rajoutait artificiel, c'était détourner le mot soie. Alors, la viscose est un procédé particulier de la soie artificielle. Un procédé de soie artificielle fabriqué avec des fibres de bois, la cellulose de bois, mais c'est le procédé qui s'est le plus largement imposé finalement et qui est devenu dominant.
Avec ce mot nylon qui apparaît tout de suite dans notre esprit quand on évoque tout cela, quelle est la différence?
Alors, le nylon, c'est complètement différent. La soie artificielle, elle est artificielle parce que c'est une transformation d'une matière qui au départ n'est pas une matière textile, la fibre de bois, mais cela reste fabriqué à partir d'une matière naturelle. Le bois, donc. Le nylon est un textile synthétique, c'est-à-dire qui est issu entièrement de la synthèse chimique et qui n'a pas de base naturelle.
Voilà, c'est la différence vraiment très importante. Quand on parle de viscose, nous sommes avec de la fibre de bois, nous sommes avec quelque chose de naturel. Oui. C'est pour ça que la cellophane, hein, qui emballe les produits alimentaires, c'est cette famille-là.
Également. Et également aussi les pellicules photographiques, au départ, qui étaient également avec le même type de fabrication. Et donc, la soie artificielle est apparue à la fin du 19e siècle, bien avant les textiles synthétiques, qui, eux, ne connaîtront une industrialisation qu'après 1945. Et ce qui est intéressant, c'est que après les textiles... Alors, les textiles artificiels n'ont pas remplacé les textiles naturels. On a continué d'utiliser de la soie naturelle pour des usages de luxe. On a continué d'utiliser, bien sûr, en bien plus grande quantité du coton, de la laine. Et qu'ensuite, quand les textiles synthétiques sont apparus, ça n'a pas non plus remplacé les textiles artificiels. Les textiles artificiels sont encore extrêmement utilisés. Il n'y a plus d'usines en France, ça c'est la désindustrialisation française, mais la production mondiale de textiles artificiels est actuellement 20 fois supérieure à celle qu'elle était en 1930 au pic de la production en France. Donc on continue de porter beaucoup de soie artificielle et de viscose en particulier.
Puis il y a ce mot soie, parce que la soie évoque tout un univers. Alors la soie évoque un univers de luxe et une histoire très riche, une histoire industrielle qui nous conduit bien souvent à Lyon. On pense au canut lyonnais.
Bien sûr. Et la soie artificielle était, la soie naturelle était un produit de luxe qui était quand même compliqué à produire avec ce verre à soie produisait le fil de soie dans son cocon. Et depuis longtemps, on avait cette idée que ça serait bien d'essayer d'imiter le verre à soie par un autre procédé. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps parce que finalement, on y a réfléchi depuis le XVIIe siècle. Et ce n'est qu'à la fin du 19e, avec le comte Hilaire de Chardonnay, à qui on attribue l'invention de la soie artificielle. Il n'est pas le seul, mais il est celui qui a véritablement réussi à lui donner une dimension industrielle en créant une usine de fabrication.
Bien justement, nous partons dans le passé à la rencontre d'Hilaire de Chardonnay.
Ainsi, ce jeune homme et cette jeune fille s'intéressent à la soie artificielle. Eh bien, mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que d'ici quelques mois, mon usine va commencer sa fabrication. Oui, j'aurais été heureux de vous expliquer tout au long les détails de mon procédé, mais je suis littéralement débordé. Je dois recevoir mon architecte, l'ingénieur qui construit les machines, et le correspondant du petit journal auquel je dois passer un communiqué. Et voyez, tenez, ma calèche m'attend déjà pour me conduire à la banque, puis à une réunion de notre société savante, j'ai pas une minute à moi. Que vouliez-vous savoir en somme ?
Cette soie artificielle.
Eh bien oui, j'ai pris cette année mon 45e brevet. Vous connaissez le procédé aux ananies ? Non, ah, dommage, ça aurait abrégé les explications.
C'est pour tirer les fils ?
Eh non, pas précisément, c'est plutôt pour les pousser. Dommage que vous ne puissiez pas voir fonctionner l'usine. Dites-moi, vous n'aurez pas l'occasion de repasser l'année prochaine ?
Paul, ne fais pas cette tête-là. Tu comprends bien que les usines de maintenant font de la soie artificielle beaucoup mieux que l'usine de Monsieur de Chardonnay. Je te promets que tu en verras une.
Mais sa soie, lui, elle était bien ? Il n'a pas raté ?
Elle était jolie. Elle était brillante.
Oui, elle était jolie, elle était brillante. Mais elle avait quelques défauts.
Le Tour de France par deux enfants, émission radiophonique 1952, avec des enfants projetés dans le passé à la découverte des métiers et des inventions d'autrefois ici. Eh bien, c'est Hilaire de Chardonnay qui est un nom important dans cette histoire de la soie artificielle. Qu'est-ce qu'il propose, lui ?
Alors, Hilaire de Chardonnay, c'est un polytechnicien, hein, issu d'une famille aristocratique, par ailleurs qui était un royaliste. Alors, il avait démissionné du corps des ponts et chaussées très jeune, juste à sa sortie de polytechnique, pour ne pas travailler pour le Second Empire, mais il était royaliste légitimiste, hein, donc c'était pas tout à fait un républicain. Et il a eu une... Bon, c'est quelqu'un qui vivait assez largement de ses rentes, et il a eu une activité assez extraordinaire d'inventions multiples. Finalement, là, ce pourquoi il est resté le plus célèbre, c'est ce développement de la soie artificielle pour lequel, comme on l'a entendu dans le film, dans le document sonore, il a déposé plusieurs brevets à partir des années 1884 et finalement. Il a lancé une usine de fabrication dans sa ville natale, à Besançon, à partir de 1892.
C'est un polytechnicien, Hervé Joly, vous êtes l'auteur de l'histoire de l'école polytechnique publiée à la découverte. Intéressant de voir que c'est un polytechnicien qui est à l'origine de la soie artificielle, parce qu'on pourrait imaginer les industriels du textile, notamment ceux de la soie, à la recherche d'autres manières de produire et produire de nouvelles choses et sans doute moins chères. Là, c'est l'école polytechnique qui nous conduit à cette découverte. Ça veut dire que on est à la croisée de tout ce qui nous intéresse. L'industrie, la chimie, la recherche, c'est ce 19e siècle foisonnant.
Oui. Alors, cette création, le développement de la soie artificielle ne se fait pas contre la soierie lyonnaise. En fait, elle va être plutôt complémentaire et les soyeux lyonnais eux-mêmes ensuite vont investir dans la soie artificielle. Parce que, en fait, la soie artificielle vient compléter la soie naturelle qui était une niche de luxe. On ne pouvait pas prétendre fabriquer des quantités considérables de soie naturelle. Et donc la soie artificielle vient apporter un complément qui permet d'élargir les débouchés de l'industrie de la soie. L'industrie de la soie, elle était tournée surtout vers une clientèle de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, clientèle fortunée. La soie artificielle vient ouvrir de nouveaux marchés considérables. On est à une époque du développement des grands magasins, du développement de la confection, et on a besoin textiles en plus grande quantité et de textiles qui ressemblent à la soie.
Et nous sommes dans une ambiance Second Empire, c'est ce foisonnement, les grands magasins, vous le dites, le développement des chemins de fer, et puis ces innovations et cette soie, puisque nous parlons de soie, alors de soie artificielle avec la viscose, mais de soie naturelle, et ça nous conduit à Lyon. Nous retrouvons Laurie Vanneau, bonjour.
Oui, bonjour.
Laurie Vanneau, vous êtes doctorante en histoire à l'Université Lumière Lyon 2. Votre thèse s'intitule « Travailleurs sentinelles, l'expérience ouvrière face au savoir et au pouvoir dans les usines de viscose de l'entre-deux-guerres ». Sous la direction de qui ?
Manuela Martini.
Donc c'est l'Université Lumière Lyon 2. Et nous parlons ici de la soie artificielle, de la soie naturelle. Mais on a besoin de votre éclairage à Lyon particulièrement. Ce que nous disait Hervé Joly, c'est que la soie naturelle, le travail de la soie naturelle ne cesse pas. En fait, il y a les deux qui se complètent, soie naturelle, soie artificielle. C'est peut-être la destination qui n'est pas la même.
Oui, tout à fait. La soie naturelle, comme l'a très bien dit Hervé Joly, va plutôt s'adresser à une industrie de luxe, hein, avec forcément la production de la soie naturelle est beaucoup plus coûteuse. Donc les vêtements qui vont être fabriqués avec vont être également plus coûteux. La soie artificielle va s'adresser plutôt à une clientèle, on pourrait dire, de classe moyenne. Voilà, avec des vêtements qui vont être beaucoup moins chers parce que la production va être moins coûteuse.
Laurie Vanneau, la soie naturelle aussi dépend de la bonne santé de ces vers à soie. Il y a aussi la fragilité liée à la maladie.
Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant du créateur de la soie artificielle, hein, Hilaire de Chardonnay, travaillait sur la maladie qui a touché les vers à soie à la fin du 19e siècle. Et c'est à partir de cette étude de la maladie des vers à soie qu'il a réfléchi en fait à créer la soie artificielle. Et forcément, la soie artificielle ne dépend pas des vers à soie et du coup ne dépend pas d'une potentielle maladie qui pourrait ruiner la production.
Oui, parce qu'on a ici la possibilité de fabriquer des choses à prix réduit. Hervé Joly, ça correspond bien aussi aux attentes du moment. On évoque ces bouleversements de la société liés à l'industrialisation et sans doute le désir de beaucoup d'acheter des choses accessibles qui ressemblent à ce qui est consommé par les dominants du moment, notamment la soie naturelle.
Oui, tout à fait. Et la question du prix va être très importante dans cette industrie parce que la soie artificielle est dès le départ moins chère que la soie naturelle, bien sûr, mais elle va avoir, selon les procédés de fabrication, des coûts quand même assez différents. Et c'est pour ça d'ailleurs que le procédé initial de Chardonnay, qui n'était pas un procédé à partir des fibres de bois, mais à partir du coton, était un procédé qui avait différents inconvénients, dont son coût. Son coût élevé parce qu'il nécessitait beaucoup de matière chimique, notamment pour le fabriquer, d'alcool et d'éther qui s'évaporaient beaucoup et donc il fallait en consommer des grandes quantités. Et la soie artificielle de Chardonnay était coûteuse. Et ensuite, se sont développés d'autres procédés. Un procédé allemand qui était encore à partir de coton, mais qui était dit un procédé au cuivre parce qu'il utilisait de l'oxyde de cuivre, qui revenait moins cher. Et puis ensuite, on a développé, ça ce sont les Britanniques, le procédé viscose, qui était un procédé, lui, à partir de la fibre de bois et qui revenait encore beaucoup moins cher. Et c'est finalement ce procédé viscose qui s'est largement abandonné et qui s'est largement imposé, et le comte de Chardonnay a cessé ses activités industrielles à partir de 1913-1914 en vendant son usine de Besançon à des fabricants de viscose.
Et Hilaire de Chardonnay commence avec du coton, mais le coton, ça nécessite de l'importation. Il faut qu'il vienne d'Amérique, j'imagine.
Oui.
Sans doute, ça coûte cher malgré tout, même si c'est moins cher que la soie naturelle, c'est un certain coût. Et à la fin, on est avec du bois, quoi. On coupe un arbre dans le jardin, on se fait de la soie.
Le coton est... Sauf dans les périodes de guerre où on a des pénuries d'importation, le coton est abondant. Et on en utilise des quantités bien plus importantes que, par exemple, de la soie naturelle, et même au départ que de la soie artificielle. D'ailleurs, la soie artificielle ne prétend pas au départ concurrencer le coton. De toute façon, au départ, on utilise du coton pour fabriquer de la soie artificielle, donc ça serait absurde de prétendre concurrencer le coton. Et puis même ensuite, avec la fibre de bois, ça reste quand même plus cher que du coton. Donc au départ, l'idée est simplement de compléter la soie naturelle. C'est bien plus tard, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où là on va se heurter aux pénuries de coton, que l'on se mettra à fabriquer aussi de la soie artificielle, ce qu'on appellera la fibrane, qui visait à remplacer le coton. Mais dans les périodes normales, on n'a aucune raison de remplacer le coton, qui est ou la laine d'ailleurs, qui sont des matières abondantes et bon marché, par une production artificielle.
Voici les étapes de fabrication.
Après avoir été découpées, puis déchiquetées, les feuilles de cellulose vont devenir un textile nouveau. Et c'est le cardage, suivi du filage, tout comme avec de la laine ou du coton. Enfin, le bobinage et le tissage. Ces tissus de fibrane et rayonne qui répondent aux besoins de la femme élégante, de l'homme de goût et du travailleur, possèdent des qualités, mais ont aussi quelques exigences. Madame, pour le lavage, il faut éviter autant que possible l'ébullition, l'emploi de la brosse. Évitez de tordre. Il est bon de brasser le linge. Et de l'essorer à la main. Et pour le repassage, un peu d'humidité et un fer pas trop chaud.
Ah oui, c'est important ça, à faire pas trop chaud. Ah non, mais sinon ça fond le journal des actualités françaises. Nous étions en avril 1944. Hervé Joly, la date est intéressante, c'est-à-dire que nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, un moment où se développent beaucoup ces alternatives. Alors, elle existe déjà, cette soie artificielle. Elle se développe. Il y a aussi dans cette idée et sur la longue histoire de cette production, la volonté de remplacer ce qui existe déjà ou alors de proposer une alternative. Cette soie à partir de la viscose, c'est quoi? C'est juste pour un nouveau matériau, un peu comme l'aluminium a pu l'être, ou alors c'est de dire, bon ben, la soie naturelle c'est trop cher, on va trouver autre chose.
Oui, mais c'est pas de remplacer la soie naturelle, c'est-à-dire que c'est un complément. Et d'ailleurs, on va, parce que les producteurs de soie artificielle, ils produisent un fil. Et ce fil, ensuite, il peut éventuellement même être tissé avec des matières naturelles, éventuellement même de la soie. Ça peut être mélangé. Les tisseurs, ensuite, font des usages multiples. Donc, c'est pas vraiment l'idée de remplacer la soie. La soie va rester comme produit de luxe. Mais simplement, c'est l'idée de pouvoir en produire beaucoup plus. Et on est à l'époque du développement de la lingerie, de la bonneterie, de la confection. Et donc, il y a une demande très très forte. Et les productions de soie artificielle vont augmenter très fortement. Mais on est encore très très loin des productions de textiles à partir du coton, hein, qui sont bien plus importantes.
Oui, c'est ça, on est encore sur quelque chose en marge. Laurie Vanneau, ça ressemble à quoi une usine de soie artificielle? Parce que quand on parle de la soie naturelle et on évoque les canuts, on voit ce système avec plein d'ateliers un peu partout dans la ville, dans les appartements. Enfin, c'est un système extrêmement complexe et éparpillé. Là, pour cette soie-là, on imagine que c'est beaucoup plus concentré.
Oui, alors du coup, dans les usines, on va quand même retrouver ce système d'ateliers. Hein. Il y a donc différents ateliers pour les usines sur lesquelles je travaille, notamment celle des Chirolles qui se situe dans la banlieue grenobloise. Nous avons déjà ce qu'on appelle le magasin, c'est-à-dire le lieu où sera réceptionné le bois. Hein. Ensuite, on a l'atelier de préparation. Donc, c'est dans cet atelier qu'on va extraire la cellulose de la pâte de bois. Et ensuite, qu'on va transformer cette cellulose en pâte liquide. On va ensuite avoir l'atelier de filature. Donc, c'est là où on va solidifier, en fait, la viscose pour ensuite la former en fil. Et on va avoir l'atelier de finissage, donc c'est là où on va solidifier les fils et on va pouvoir les enrouler autour des bobines. Et à Échirolles, on a aussi ce qu'on appelle le laboratoire, rien à voir avec la chimie. En fait, c'est un atelier pour faire un contrôle qualité, on dirait ça aujourd'hui, pour vérifier donc la qualité du fil. Donc on a des usines qui fonctionnent avec plusieurs ateliers, mais qui sont bien regroupés dans une seule et même usine.
Mais Laurie Vanneau, dans ce que vous nous dites là, c'est surtout une production de fil, on l'entend bien. Hein. C'est ça qui est important à noter, parce qu'il va y avoir encore plein d'étapes après, du tissage, la teinture, tout ça. Mais ça peut être à l'extérieur de ces usines-là.
Tout à fait. En tout cas, les usines sur lesquelles je travaille, hein, on ne retrouve pas en fait cet atelier de tissage ou de teinture.
Hervé Joly.
Il n'y a pas de tissage dans les usines de textiles artificiels. Il y en a très nombreuses en France. Ce sont toutes des usines de fil. C'est pour ça que c'est pas comparable avec les canuts qui sont eux des tisseurs. Et en fait, les usines de textiles artificiels de production de fil ne remplacent pas les canuts. Elles remplacent ou complète la production des mouliniers de soie, qui sont ceux qui, à partir du cocon de verre à soie, font un fil. Mais les mouliniers de soie, ils ne sont pas à Lyon, ils sont à campagne, plutôt en Ardèche, donc dans le Gard, là où au départ il y avait des élevages de verre à soie. Simplement après, avec la pébrine, le verre à soie qui a beaucoup été importé, les cocons de verre à soie ont beaucoup été importés en France, mais les usines sont restées dans l'Ardèche et dans le Gard. Et ce sont ces mouliniers, d'ailleurs, qui, eux, vont quand même vivre la soie artificielle comme une concurrence, et ce sont eux qui vont obtenir, par la loi de 1934, l'interdiction de l'appellation soie artificielle. Alors que les fabricants de soieries lyonnais, ceux qui étaient les donneurs d'ordre des canuts, ou ensuite qui ont développé leurs propres usines, eux n'avaient aucun problème avec la soie artificielle, puisque, en fait, comme tisseurs, ils pouvaient indifféremment utiliser de la soie naturelle ou de la soie artificielle.
La pébrine, la catine, c'est la maladie du ver à soie. Laurie Vanneau, comment ça s'organise à l'intérieur de Lyon, cette production de soie artificielle? Parce que vous avez travaillé sur l'usine d'Échirolles particulièrement. Donc, dans la ville de Lyon, il y a toujours ces canuts qui filent de la soie qui leur arrive sous forme de fil, alors de l'Ardèche parce que ça c'est de la soie naturelle avec des vers à soie, ou alors de moins loin parce que c'est de la soie artificielle. On doit l'envisager ainsi ?
Oui, tout à fait. Comme la production est basée dans le bassin lyonnais, stéphanois, grenoblois, les fils en fait sont faits dans des usines qui sont très proches et donc qui peuvent être envoyés dans les ateliers de tissage de proximité, si je puis dire.
Avec tant et tant de domaines qui nous intéressent, parce que la soie naturelle, on l'associe particulièrement, alors au très grand luxe, mais du vêtement, la soie naturelle, ça peut éventuellement servir pour l'ameublement, mais oui.
C'est... Oui, il y a différents usages de la soie naturelle. Il y a toute l'industrie aussi des ornements d'église. À Lyon, on a toute une industrie qui s'est développée autour de ça. Il y a des usages effectivement aussi dans l'ameublement de luxe. Il y a de différents usages de la soie naturelle, mais la soie artificielle va étendre considérablement les débouchés.
Quand on prononce le mot de textile, c'est évidemment d'abord aux vêtements que l'on pense.
C'est exact, mais il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, surtout, avec les conquêtes des textiles artificiels dans le pneumatique, pour ne parler que de celle-là, il faut envisager les emplois industriels.
Et pour nous en tenir d'abord aux questions de l'habillement, toutes les pièces de l'habillement peuvent-elles être faites avec succès en matière textile artificielle?
C'est certain.
Tout, des pieds à la tête.
Mais mon Dieu... Vous pouvez faire des bas, avec le plus grand succès, de la lingerie, des robes, des blouses, des écharpes, des pantalons, des vestes, des chapeaux, avec les pailles.
Et dans les autres domaines, alors vous parliez tout à l'heure de pneumatique.
Il y a deux autres grands domaines, à mon sens. C'est, si vous voulez ne pas quitter le domaine du textile, c'est l'ameublement. Et ensuite, vous avez le grand emploi du pneumatique et des courroies. Quand je dis ameublement tout à l'heure, c'est aussi bien l'ameublement intérieur, c'est-à-dire rideaux, fauteuils, que l'ameublement extérieur, c'est-à-dire chemin de fer, car, automobile.
Hervé Joly, le journaliste de cet archive de 1954, vous a écouté parce qu'il ne dit pas soie artificielle, il dit matière textile artificielle. Il sait que c'est interdit de dire soie artificielle.
Oui. Il fait attention. Oui, et puis on a une époque où, entre-temps, la production de fibrane destinée à remplacer le coton s'est développée également. Elle s'est développée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on a continué ensuite parce que les coûts de production devenant moins élevés, la fibrane a pu aussi devenir une alternative au coton.
C'est quoi ça, la fibrane ?
Alors la fibrane, ce sont il y a la rayonne qui remplace la soie, et la fibrane remplace plutôt le coton. Ce sont des fibres coupées, alors que la rayonne sont des fibres continues. Alors ne me demandez pas les détails techniques, je ne suis pas spécialiste à ce point-là pour vous expliquer, mais voilà, ce sont deux matières différentes qui ont des usages différents.
Laurie Vanneau, dans ces usines, notamment celle d'Échirolles que vous avez étudiée, que produit-on? Alors, on produit de la rayonne, ce qui s'apparente à la soie, ou alors on produit, c'est quoi l'autre, vous m'avez dit?
La fibrane.
La fibrane qui s'apparente au coton.
On est plutôt sur de la rayonne, du coup, qui s'apparente à la soie.
Et pour des usages multiples, hein, Laurie Vanneau, on l'a entendu ici, pas que oui, du vêtement.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors oui, on trouve bien sûr des usages pour les vêtements, mais il n'y a pas que ça. Hein. Bien sûr, l'ameublement. On va aussi avoir, bon là, ça sera plutôt pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l'utilisation de soie artificielle pour la fabrication des parachutes. Voilà. Donc une production des usages qui peuvent être assez divers.
Les ailes d'avion aussi, j'ai lu ça, c'est-à-dire au moment où on a encore des biplans avec des tissus sur les ailes.
Alors c'est là une soie particulière, soie artificielle particulière, de plus coûteuse à produire et de plus résistante, qui était une soie à base d'acétate de cellulose, qui est un procédé minoritaire qui avait été développé pendant la Première Guerre mondiale, effectivement, notamment pour la fabrication d'ailes d'avion, et qui a ensuite été repris, notamment par l'entreprise Rodiaceta, pour les usages civils dans l'entre-deux-guerres. Mais une soie qui restait plus chère, donc il ne pouvait pas concurrencer la viscose qui restait pour des usages spécifiques.
Voilà, et puis il y a toujours cette idée de soie associée à la lingerie.
Là-bas dans mon Texas, j'allais vêtu comme un vrai garçon. À la ville, au moins, la femme est femme avec sa mode et ses façons. J'ai quitté mon vieux rancho, je suis à San Francisco. Je fréquente en élégante pomponnée de la tête aux talons les bars chics et les grands salons. J'allais pieds nus dans la rosée, me voilà métamorphosée. En toilette, avec voilette, mon ombrelle et mon petit manchon, ma guêpière et mes longs jupons. Gantée jusqu'au bras et chaussée de souliers fins, je m'avance en mesurant mes pas, suivie de mon parfum. Je porte aussi de longs bas noirs, des dessous qui laissent voir mille choses blanches et roses dans un froufrou de satin de lino, sous ma guêpière et mes longs jupons. Quelle joie pour un amant d'écarter lentement ses embûches, ses fanfreluches, le lacet, ruban, pompon, et la guêpière et les longs jupons.
Yvette Giraud dans le cours de l'histoire sur France Culture, ma guêpière et mes longs jupons, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Cassandre Puel avec aujourd'hui la technique Ludovic Auger. Aujourd'hui, nous osons la viscose parce que ici, c'est une vaste histoire qui s'écrit, une histoire, quelque part, on l'entend ici, c'est une histoire sociale. Hervé Joly, c'est lingerie, c'est aussi au plus près de l'individu, une histoire du corps, avec une diffusion de pratiques qui jusqu'alors étaient réservées à une élite qui pouvait s'acheter de la soie naturelle. C'est vraiment cela que l'on voit aussi avec la diffusion de la soie artificielle.
Oui, on a une époque où la confection se développe, les gens se mettent, au moins dans les classes moyennes, à acheter plus fréquemment des vêtements, alors qu'avant, en dehors des milieux les plus privilégiés, on gardait souvent très longtemps les mêmes vêtements, des vêtements résistants qui étaient faits pour travailler. Là, les classes moyennes se mettent à avoir des loisirs, donc on ne va pas en loisirs en habit de travail, il faut d'autres habits et plus confortables, plus agréables, et tout ça crée de nouveaux marchés considérables.
Et avec sans doute de la concurrence pour cette soie artificielle, en tout cas proposée dans un premier temps par Hilaire de Chardonnay, elle était d'ailleurs de qualité similaire à la soie naturelle ou...
Non, je pense qu'on pouvait repérer la différence. L'idée n'est pas d'avoir quelque chose d'identique, mais d'avoir quelque chose de satisfaisant, l'industrie du luxe a continué d'utiliser la soie naturelle. Il n'était pas question de la remplacer. Mais on avait quelque chose qui était acceptable et qui s'est amélioré au fil du temps. Les premières soies artificielles étaient évidemment plus grossières que ensuite elles se sont devenues de meilleure qualité.
Laurie Vanneau, dans les usines que vous avez pu étudier, il y a des secteurs de recherche et de développement pour toujours améliorer la qualité?
On retrouve ça en fait dans l'atelier le laboratoire en fait où il y a un contrôle qualité sur ces fils et le but, l'objectif final, c'est bien de les améliorer effectivement.
Oui, toujours améliorer parce qu'on voit que c'est une histoire de concurrence aussi ces usines, et dans le cas d'Hilaire de Chardonnay, c'est Besançon. On évoque Lyon avec vous, Laurie Vanneau. Ce sont des usines qui sont localisées. On va avoir dans certaines régions des usines de soie artificielle qui vont s'installer particulièrement par rapport à d'autres régions.
On a des usines de soie artificielle. Il y a un développement considérable. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est plutôt dans la région lyonnaise. Hein, les premières usines sont à, notamment à Izieux, près de Saint-Chamond. Mais on a aussi, dès le départ, une usine dans les Ardennes, à Givet. D'ailleurs, l'entreprise ensuite s'appellera Givet Izieux. On a aussi une usine dans la Seine-Maritime, Seine inférieure, comme on dit à l'époque, à Arc-la-Bataille. On a ensuite, dans les années 20, le développement va être absolument considérable parce qu'il y a la production, la demande explose et il y a beaucoup d'argent à gagner dans la soie artificielle. Donc plein de gens vont, des investisseurs français mais aussi étrangers vont créer des usines de soie artificielle presque partout en France. Alors un peu moins dans la moitié ouest, mais il y a des lancements de fabrication du côté de Rennes, du côté de Cognac, etc. Rochefort, pardon. On en fabrique aussi dans l'Aveyron. Enfin, on en fabrique dans beaucoup d'endroits parce que de toute façon, il y a de l'industrie textile partout en France. Il y a de l'industrie du tissage textile partout. Donc, il y a de la demande partout.
Et puis, il y a besoin que de bois.
Oui.
On en trouve partout du bois.
Alors, c'est pas n'importe quel bois.
Ah.
C'est là où ça va être compliqué. C'est que, en fait, c'est de la cellulose de pin. D'ailleurs, il va se créer une entreprise qui s'appelle la cellulose du pin, du côté des Landes. Mais ça ne va pas bien marcher pour cet usage. La cellulose du pin fabriquera ensuite de la cellulose qui servira plutôt à fabriquer du carton. Pour la soie artificielle, il faut un pin spécifique et on n'a pas réussi à le développer en France, ce qui fait qu'on importe, pour cela on est dépendant, on importe du pin de Scandinavie ou du Canada. Alors, jusqu'en 1940, ce n'est pas un problème. Évidemment, en 1940, ça en devient un, et c'est pour ça que l'industrie des textiles artificiels va tomber dans les mains des Allemands, puisqu'on va avoir besoin que les Allemands nous aident pour continuer d'avoir des approvisionnements de cellulose, et aussi pour développer la fameuse fabrication de fibrane, remplaçant le coton, parce qu'on n'a plus de coton. Et pendant la guerre, les Allemands vont nous permettre d'importer, faire transiter par l'Allemagne du pain venant de Scandinavie, ce qui va permettre de poursuivre la fabrication en France.
Oui, parce que c'est au moment très particulier de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faudrait pas oublier que l'industrie continue pendant toute cette période-là.
Ah oui, elle continue et elle se développe. D'ailleurs, le plus gros investissement industriel qui va être fait sous Vichy, d'ailleurs au départ dans la zone non occupée, est fait à Roanne, dans une ancienne usine de textile artificiel qui avait été arrêtée avec la crise des années 30, qui est relancée et qui est développée avec un chantier gigantesque dans une période où on a des pénuries considérables de ciment, de produits métalliques, etc. C'est une priorité majeure. Et du coup, des moyens considérables sont mis. C'est une vitrine à la fois pour Vichy et pour les Allemands qui vont aider à la construction de cette usine, qui vont prendre des parts dans la société exploitant cette usine. Et c'est un projet industriel considérable qui va s'achever en 1942 et lancer une production importante. Alors, qui au départ est censée être exclusivement pour le marché français. Finalement, avec le temps, les Allemands vont avoir quelques exigences pour transférer une partie de la production en Allemagne à un moment où leur industrie commence à être en difficulté. Mais bon, il reste quand même que les dirigeants du groupe qui contrôle cette usine et de cette usine vont s'en sortir après la guerre en expliquant quand même qu'ils ont essentiellement servi le marché intérieur et qu'ils ont permis à la France de continuer à s'habiller parce qu'il n'y avait plus de textile naturel qui arrivait, notamment de coton.
Avec une histoire industrielle, une histoire donc de concurrence, Hervé Joly, vous nous le dites, il y a des usines un peu partout en France, le Rivano, tout cela, vous le constatez au moment d'étudier cette histoire de la viscose, de l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, vous étudiez une usine Échirolles et pas seulement celle-là, parce que faut prendre en compte tout ce qui se passe partout en France.
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup travaillé sur celle des Échirolles, mais il y en a bien évidemment partout en France. J'en ai compté environ 40. Hein. Et donc, il y a nécessairement une concurrence qui se fait entre toutes ces usines.
Et parmi ces 40 usines, Hervé Joly, vous nous avez dit qu'il y en a une dans les Ardennes, c'est celle de...
J'y vais.
Eh bien, j'y vais. J'y vais, enfin j'y suis, dans une usine de tissage de textile. Lucie Vanneau, qui est la main d'œuvre dans ces usines-là? Parce que au moment de parler de la fabrication de la soie naturelle. Alors la soie naturelle, je parle du fil et là on est au plus près du verre à soie. Et puis après du tissage, et là je suis avec les canuts à Lyon. On a une main d'œuvre spécialisée, il faut savoir le faire dans les usines de fabrication de soie artificielle. Quelle est la main d'œuvre?
Alors on a une main d'œuvre qui est diversifiée, on a des travailleurs français, on a aussi des travailleurs immigrés. Avec beaucoup d'origines qui sont représentées sur les usines sur lesquelles j'ai pu travailler, Vent-en-Velin, La Soie et Chirol. On a des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Hongrois, des Polonais. Bon, les vagues d'immigration dépendent du contexte. Hein. Par exemple, les Polonais, après la Première Guerre mondiale, la France va signer une convention exactement en 1919 pour permettre aux Polonais de venir travailler en France. Bon, du coup, on a quand même une main-d'œuvre qui est très diversifiée. On a également des hommes et des femmes. Et on retrouve dans ces usines une division sexuée du travail avec des hommes qui vont plutôt travailler dans les ateliers où on manipule des produits chimiques, donc les ateliers de préparation et de filature. Et on va retrouver la main-d'œuvre féminine plutôt dans le finissage, le bobinage et les laboratoires. Donc voilà, on retrouve en fait cette division sexuée du travail dans les usines.
Division sexuée du travail et des cadences difficiles. Hein. Le titre de votre thèse, je le rappelle, c'est « Travailleurs sentinelles, expérience ouvrière face au savoir ». Et ça, c'est très important. Mmh. Et au pouvoir dans les usines de viscose, il y a des conditions de travail plus difficiles que dans d'autres usines?
Les conditions de travail sont effectivement extrêmement difficiles avec des journées très longues, mais ça j'ai envie de dire c'est un peu le cas dans toutes les usines de plusieurs secteurs en France. Ce qui va un peu changer avec les usines de viscose, c'est le contact avec les produits chimiques. J'ai travaillé sur des fiches médicales qui concernent l'usine des Chirols, et sur ces fiches médicales on retrouve des troubles cardiaques, des troubles respiratoires, des troubles digestifs, des troubles gastriques, neurologiques. Et aujourd'hui, quand on compare, quand on regarde les fiches toxicologiques qui sont publiées par des instituts, hein, on voit que être en contact fréquent avec le sulfure de carbone, avec d'autres produits chimiques, on peut souffrir de ce type de troubles.
Et c'est sans compter les accidents du travail.
Eh bien, où allez-vous ?
On aimerait parler avec l'ingénieur.
L'ingénieur ? Mais qu'est-ce que vous lui voulez ?
Ben, on voudrait lui dire un mot.
Dites-le à moi.
C'est que...
Qu'est-ce que c'est ? Un secret ?
Non, au contraire seulement. On parle au nom de nous tous. C'est au sujet de l'accident d'hier. Oui, il faut regarder les horaires parce que 14 heures, c'est trop.
Vous savez que vous avez de la chance. Si vous teniez ce genre de discours devant l'ingénieur, je me demande comment ça se terminerait. Les horaires. Bah, Turin, tout le monde a les mêmes.
Je dis pas, mais aussi après, il y a les accidents.
Mon cher, un malheur, c'est un malheur et ça arrive par malheur. Et personne n'y peut rien. Pour les éviter, il faut faire plus attention, espérer que ça n'arrivera plus. Vous voulez tout de même pas vous en prendre à l'ingénieur de ce qui est arrivé, non? Écoutez, je suis un salarié comme vous autres. Je suis donc de votre côté. Je vous le dis pour votre bien. Restez les pieds sur la terre et enlevez-vous de la tête ces idées ridicules. Oui. Mais comment de telles absurdités ont-elles pu vous venir à l'esprit?
On ne peut pas rester là. Allez, vas-y.
Mais c'est pas une absurdité. L'absurdité, c'est d'abrutir ceux qui travaillent.
Bernard Blier. Dans le film Les Camarades de Mario Monicelli en 1963, où nous sommes ici dans une usine de textile à Turin, le Rivano. Ben, vous voyez, c'est un peu ce que vous nous expliquez. Hein. C'est une histoire transnationale avec des déplacements de main d'œuvre et puis des usines aussi, notamment à Turin, et des vocations. Alors déjà, de ces 14 heures par jour, on leur dit, c'est comme ça, sinon ça marchera pas. Et puis, ce danger, les accidents du travail, vous le voyez, vous, dans les archives, ce danger du travail, ces accidents?
Oui, tout à fait. Donc, d'un côté, il y a ce contact aux produits chimiques qui est pour moi une violence qui est lente, qui est invisible, mais il y a aussi une violence qui est un peu plus visible, celle des accidents de travail. Travailler avec des produits chimiques, il suffit qu'un produit tombe sur la main d'un ouvrier, on va avoir des brûlures, on va avoir aussi des ouvriers qui vont perdre leurs yeux ou un œil parce qu'ils se sont pris un jet de produits chimiques. Donc, il y a beaucoup d'accidents de travail, il y a aussi des accidents dans le travail par rapport aux machines, un ouvrier qui va se faire écraser la main, etc. Donc on retrouve ces accidents de travail dans les fiches médicales sur lesquelles j'ai pu travailler.
Avec la question des archives, parce que nous parlons d'usines, nous parlons d'entreprises privées qui ne sont pas censées déposer leurs archives, et puis parfois elles disparaissent, elles sont jetées ou partent en fumée. Ces archives-là, Laurie Vanneau, dans quel état sont-elles ? C'est une entreprise d'Échirolles qui a pu conserver ses archives ?
Oui. Alors déjà, oui, c'est très compliqué de trouver des archives d'entreprise pour les raisons que vous avez dit. En fait, à Échirolles, donc l'usine a fermé dans les années 80, et en fait, il y a des ouvriers qui ont voulu conserver cette mémoire et qui ont regroupé toutes ces archives, tous ces documents, et aujourd'hui, un musée a été créé à proximité de l'ancienne usine. Hein. Et dans lequel on peut retrouver ces documents, qui sont pas forcément bien classés, mais qui existent et qui ont le mérite d'exister.
Ouais, Hervé Joly, c'est toute la question des archives au moment d'utiliser, d'étudier les entreprises.
Oui, Laurie Vanneau a beaucoup de mérite à s'être lancé dans cette thèse, parce qu'effectivement la situation des archives est très difficile pour cette industrie. Pour ce qui est des archives et véritablement d'entreprises, l'essentiel de l'industrie des textiles artificiels en France a été hérité par le groupe Rhône-Poulenc, à l'époque Rhône-Poulenc avait une branche textile importante. Ensuite, quand Rhône-Poulenc s'est spécialisé dans la pharmacie et dans la chimie, il s'est progressivement délesté de sa branche textile, qui comprenait d'ailleurs des textiles artificiels et des textiles synthétiques, nylon, polyester. Et ensuite, les usines ont été dispersées entre différents actionnaires. Pour la plupart, ont fermé. Quand elles n'avaient pas fermé dans les années 80, elles ont fermé ensuite dans les années 90. Et JV a été la dernière à fermer en 2000. D'ailleurs, dans des conditions assez retentissantes, puisque les ouvriers avaient menacé de balancer des fûts d'acide dans la Meuse. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Et c'est la dernière usine en France qui a subsisté. Il y a des usines importantes encore en Europe, notamment en Autriche, qui est le premier groupe mondial de fabricants de soie artificielle. Mais effectivement, on a les archives de Rhône-Poulenc qui sont conservées à Besançon, d'ailleurs, dans l'ancienne usine de textile artificiel de Chardonnay, qui avait subsisté ensuite dans le cadre du comptoir des textiles artificiels et ensuite intégré à Rhône-Poulenc. Ces archives qui sont riches par ailleurs ont relativement peu de choses sur les usines de soie artificielle, et surtout beaucoup d'usines ont fermé malheureusement sans verser leurs archives dans des archives publiques. C'est quelque chose qui se passe très souvent. Bon, à Vaux-en-Velin aussi, situation à côté de Lyon que Laurie connaît bien, on a une association de mémoire qui est très active, Vive la Taz, mais qui n'a pas non plus d'archives à sa disposition. Enfin, la situation est très difficile pour l'historien.
Ben oui, historienne, historien, dépend de ces archives, tout ça, ça ne tient qu'à un fil de soie, bien sûr.
Dans un ravissant équipage, emmitouflé dans mon plumage, je suis prête pour l'esclavage, prête à recevoir vos hommages, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Avec vos airs et vos guitares, vous êtes toujours sur le départ. Des amours barbares, pleines de fièvre un peu bizarre, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Je me donne à vous en pâture, mais j'ai revêtu mon armure. Vous m'infligerez des tortures, tout le reste je le censure, mais votre corps, vos lèvres m'attirent, je vais succomber au plaisir.
vos désirs, avec soupir sans repentir. Mais à la bague au doigt, juste un fil de soie. Les horloges sont arrêtées, chaque seconde est un baiser. La terre a cessé de tourner, vous avez su m'apprivoiser. Mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Renversé dans des refleurir, à en pleurer, à en pâlir, mais pas la bague au doigt, juste un fil de soie. Je le romps ma foi pour garder la joie, et je vous renvoie pour un autre roi. Papa, 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 papa.
Juste un fil de soie, c'est Jeanne Moreau. Alors on ne sait pas si c'est de la soie naturelle ou de la soie artificielle, il y a toujours un contraste fou entre le produit réalisé tel qu'exposé, parce qu'il y a beaucoup de publicité, la soie naturelle, le luxe, la soie artificielle aussi, hein, qui fait rêver. Et puis la réalité des conditions de travail, Laurie Vanneau, vous nous en parliez, hein, des conditions de travail très dures, comme... Et vous l'avez dit avec justesse, un peu partout, c'est dur partout, les horaires sont terrifiants, 14 heures par jour, des conditions de travail très dures, avec la spécificité dans ces usines de viscose, des produits chimiques. Il y a des organisations que vous avez pu identifier de travailleurs, de travailleuses, pour ben justement obtenir de meilleures conditions de travail.
Là, je vois tout de suite les protestations en fait ouvrières, hein, qu'il y a eu notamment par des grèves, hein, donc des protestations qui sont plutôt visibles. Et je pense notamment à la grande grève de 1936, hein, dans le contexte qu'on connaît, avec la hausse du chômage, etc. Les ouvriers, les ouvrières se sont organisés pour demander des meilleures conditions. Alors des conditions que d'autres ouvriers vont demander à ce moment-là, la hausse des salaires, etc. Mais aussi des conditions qui sont plus propres aux usines de viscose, notamment le fait d'avoir des vêtements de protection, le fait d'avoir du lait. Alors c'est un peu étrange comme revendication, mais en fait, dans la culture populaire, le lait aiderait à lutter contre les produits chimiques, contre leur impact sur la santé. Et donc, à la suite de cette grève de 1936, ils vont obtenir la distribution gratuite de lait dans l'usine des Chirolles.
Voilà, ces combats sont toujours très intéressants parce qu'on voit que les préoccupations ouvrières parfois nous échappent complètement, mais ça c'est le quotidien des gens qui se disent peut-être pour sauver notre vie, le verre de lait fera du bien, mais en tout cas quand on a des revendications, faut les porter auprès de quelqu'un. Dans le cas d'une entreprise privée, souvent c'est une grande famille, les Gilets de Lyon, fortune d'une grande dynastie industrielle. Hervé Joly, c'est un ouvrage que vous avez publié, une étude que vous avez faite, parce que ces usines-là de viscose, donc on est dans un monde chimique, sont souvent, j'imagine, associés à des fonds liés au textile, mais au textile naturel. On ne s'improvise pas patron d'une usine de soie artificielle.
Oui, les gilets qui s'étaient lancés en 1904 dans l'industrie des textiles artificiels, en créant l'usine Dizieux, à l'époque à partir du brevet allemand de la soie au cuivre. Ensuite, assez rapidement, ils l'abandonneront pour reprendre le procédé de la viscose. Les gilets étaient au départ des teinturiers pour soie, et teinturiers pour soie naturelle, et en particulier spécialisés dans la soie au noir, qui était la soie la plus difficile à teindre, la plus exigeante. Ensuite, ils s'étaient développés aussi dans l'industrie chimique, avec l'entreprise qui s'appellera ensuite Progil, produit chimique gilet, assez logiquement, comme ils ne voulaient pas eux-mêmes devenir des fabricants de soieries, ce qui les aurait amenés à concurrencer leurs clients, parce que en tant que teinturiers, ils avaient pour clients les fabricants de soieries, ils teignaient les fils ou les tissus de soie des fabricants lyonnais. Ils se sont lancés dans la fabrication de textiles artificiels, et c'est eux qui ont ensuite rassemblé beaucoup d'usines dans une concentration. La crise des années 30 a amené beaucoup de fermetures, et les usines qui ont subsisté se sont finalement toutes, à la fin des années 50, regroupées dans le groupe Comptoir des textiles artificiels, qui était contrôlé par la famille Gillet et qui ensuite a intégré le groupe Rhône-Poulenc.
Voilà, c'est une vraie dynastie et quand on regarde l'arbre généalogique, on ne peut être qu'étonné de voir tant de ramifications dans le monde de l'industrie, dans le journalisme aussi. Et puisqu'il est question de journalisme et de combat ouvrier, lisons l'Humanité.
Depuis 10 jours, 1800 ouvriers et ouvrières de l'usine de soie artificielle de la Voulte-sur-Rhône sont en grève, en réponse à un coup de force de la direction contre le syndicat nouvellement constitué. Depuis quelque temps, la direction désirait modifier son organisation afin de faire travailler le dimanche, le repos hebdomadaire étant pris par roulement. Mais le jeune syndicat était là vigilant, et la direction sentait bien que sa petite combinaison n'avait guère de chance de réussir si préalablement l'organisation ouvrière n'était pas brisée. Un système de brimades et de provocations contre les militants fut instauré dans l'usine. Contremaîtres, surveillants et employés rivalisèrent de zèle pour que les ouvriers connus comme syndicalistes aient dans l'usine une vie intenable et s'en aillent eux-mêmes. Cette tactique échoua complètement devant la maîtrise et le sang-froid de nos camarades.
Diane Devancey dans le cours de l'histoire sur France Culture qui lisait le journal L'Humanité en 1926. Le Rivano, il y a d'autres acteurs, patrons, ouvriers, mais pas seulement. Il y a la médecine du travail, c'est-à-dire les institutions, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la municipalité. Tout le monde est concerné dans ces histoires-là.
Oui, tout à fait. Déjà, la médecine du travail, pendant l'entre-deux-guerres, on peut pas tellement parler de médecine du travail, on parlerait plutôt de médecins d'entreprise. Ce sont des médecins qui sont employés, embauchés par le patron, qui ne sont pas neutres, ce ne sont pas des agents de l'État, et donc qui vont jouer aussi un rôle dans les maladies professionnelles ouvrières, ouvrières, parce que donc j'ai pu voir dans les fiches médicales parfois une certaine condescendance de la part des médecins vis-à-vis des souffrances ouvrières. On est sur une souffrance qui est invisibilisé, qui est invisible. On arrive à des fois à des choses qui peuvent paraître étranges. Un ouvrier qui va inhaler du sulfure de carbone, qui se sent vraiment vraiment pas bien, qui souffre, qui a des vomissements, qui a des nausées, qui a des brûlures d'estomac, et le médecin qui ne va pas le changer d'atelier parce que le patron lui a demandé. Et donc le médecin va jouer un rôle et va être bien souvent, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir pour l'instant, un complice du patron et va s'inscrire comme le patron dans une logique productiviste.
Oui, parce que c'est ça, c'est faut produire énormément et c'est, on le dit sans cesse, mais c'est pareil pour l'ensemble des entreprises avec spécificité ici dans cette production de viscose. Hervé Joly, il y a un boom, on peut le dire ainsi, dans l'entre-deux-guerres de cette production de soie artificielle, avec la spécificité ensuite au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on le voit bien, c'est quelque chose qui continue. Est-ce que le statut de cette soie artificielle change? Parce que, on le dit bien, c'est un fil, donc il peut être mélangé à d'autres textiles, du coton ou de la soie naturelle. Est-ce que on voit comme ça apparaître tout un échantillonnage de possibles autour de cette soie artificielle?
Oui, les usages se multiplient. Le textile artificiel, par le fait qu'on fabrique aussi de la fibrane, on continue d'en fabriquer, notamment dans cette usine de Roanne qui avait été faite sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Les textiles artificiels sont de plus en plus utilisés dans des usages divers, dans la confection, mais on l'a dit aussi, il y a beaucoup d'usages, on pense aux sièges automobiles, tout ça qui va se développer. Il y a l'usage du pneumatique avec le fameux pneu radial de Michelin à Clermont-Ferrand qui va être avec des fibres textiles. Donc il y a multiplication des usages. C'est une industrie qui continue de se développer et qui va se compléter ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, par l'industrie des textiles synthétiques, le linon polyester, mais qui ne va pas remplacer, mais va compléter les fabrications précédentes.
D'autant que la haute couture s'est emparée de cette soie artificielle.
En 2 ans, la soie artificielle a conquis ses lettres de noblesse dans la grande couture parisienne. Et cela grâce aux tisseurs, aux soyeux lyonnais, qui ont découvert que la soie artificielle avait cessé d'être inférieure à la soie naturelle. Nous avons vu cette année des robes en soie artificielle chez les premiers couturiers de Paris. Elles étaient non seulement élégantes et de tons et de coloris charmants, mais les ayant examinées de près, nous avons vu que la souplesse et la solidité des tissus étaient exactement les mêmes qu'avec des tissus de même genre en soie naturelle. La soie française est désormais l'égale de la soie étrangère. Et toute femme qui achète de la soie naturelle, en croyant qu'elle fait une bonne opération, travaille à la fois contre son porte-monnaie à elle et contre le rétablissement de la prospérité en France.
Raphaël Laloum, tranquille, qui lit la revue Bec et Ongles en 1933 et qui apprend que utiliser, en tout cas acheter de la soie artificielle, c'est aussi soutenir l'économie française. C'est très important, ça. Hein,
oui, alors les mouliniers de l'Ardèche qui ont fait interdire l'appellation soie naturelle un an après, hein, puisqu'on est en 1933, la loi sera promulguée en 1934, ne devaient pas être d'accord avec ce texte. Hein, eux, ils considéraient qu'on pouvait encore fabriquer tout à fait en France de la soie naturelle.
Laurie Vanneau, l'entreprise que vous étudiez à Échirolles ferme à quel moment ?
1982.
Oui, 82, les années 1980. Est-ce qu'on peut évoquer une concurrence des soies synthétiques, en tout cas des textiles synthétiques? Alors, on pourrait les lister, il y en a plein, mais c'est vrai que c'est le nylon qui domine, mais après, il y a le tergal, il y en a plein d'autres.
Pas vraiment une concurrence, puisque je l'ai rappelé en début d'émission, la production aujourd'hui de viscose dans le monde est 20 fois supérieure à ce qu'elle était en 1930. Donc on pourrait continuer de produire massivement de la viscose en France, on en aurait l'usage. Simplement, ce sont des choix industriels qui ont été faits. Le groupe Rhône-Poulenc, qui en plus avait été nationalisé, alors à ce moment ça avait représenté en 82 un grand espoir pour les travailleurs de Rhône-Poulenc Textile, qui pensaient que dans le cadre d'une entreprise publique, on allait pouvoir sauver leurs usines. Bon, ça s'est pas bien passé comme prévu, parce que, comme vient de le dire Laurie Vanneau, justement, c'est en 1982 que l'usine d'Échirolles ferme, et d'autres usines vont fermer dans les années suivantes, et le choix de Rhône-Poulenc entreprise publique va être de s'orienter vers la chimie et la pharmacie exclusivement, et d'abandonner son textile. Et on n'a même pas délocalisé nous-mêmes les fabrications. Rhône-Poulenc aurait pu éventuellement développer des fabrications. Aujourd'hui, beaucoup de fabrications de textiles artificiels sont en Indonésie, en Inde. On aurait pu le faire, mais on l'a pas fait. On l'a laissé à d'autres groupes. Aujourd'hui, il y a encore de la fabrication d'ailleurs de textiles artificiels en Europe, dans un pays qui est pas un pays réputé pour sa main-d'œuvre à bon marché, qui est l'Autriche. Aujourd'hui, on a de toute façon une industrie qui est beaucoup plus automatisée. On voit que avec la souffrance qu'évoquait tout à l'heure Laurie Vanneau des travailleurs du textile artificiel avant la guerre, on était à l'époque encore dans une industrie assez manuelle, à la fois dans les manutentions chimiques et puis ensuite dans la fabrication du fil avec les petites mains féminines qui fabriquaient le fil. Maintenant, on est dans une industrie très largement automatisée qui pourrait être faite en France. Simplement, on a fermé nos usines et elles sont ailleurs. Mais il y en a de très importantes, par exemple en Autriche, ce qui montre que c'est possible en Europe.
Laurie Vanneau, juste en quelques mots, les usines ne sont plus en France, choix industriel, la mémoire est toujours là, hein, ça, vous le constatez, c'est ce qui permet d'ailleurs de faire vivre ce musée d'Échirolles.
Oui, oui, tout à fait, la mémoire est toujours là, avec beaucoup d'associations, comme l'a dit Hervé Joly tout à l'heure, hein, à Lyon, il y a l'association Vive la Taz, l'association Mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc aussi des ouvriers qui ont tenu à conserver leur mémoire dans le musée d'Échirolles. Il y a beaucoup d'expositions, il y a des visites, effectivement, la mémoire demeure.
Voilà, donc en attendant de lire votre travail, Laurie Vanneau, sur les travailleurs sentinelles, l'expérience ouvrière face au savoir et au pouvoir dans les usines de viscose de l'entre-deux-guerres, on peut aller visiter les musées et Hervé Joly là aussi. En attendant d'aller chercher dans un magasin les dernières créations en viscose, on lit votre histoire de l'école polytechnique et puis on peut retrouver votre étude sur la dynastie Gilet de Lyon. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire.
Merci.
Tiens, mon chéri, qu'est-ce que c'est que cette machine-là ?
Attends, je ne sais pas, attends. Machine à filer la soie de Chardonnay. Ah, ça doit être pour faire de la soie artificielle.
La soie artificielle ? Ouais. Quelle horreur, j'en porterai jamais.
Qu'est-ce que tu en sais ? Faut marcher avec son temps. Tout de même, faire du tissu avec du bois. Ah, il y en a qui vont les chercher loin, leurs idées.
Ah oui, du tissu avec du bois, le cours de l'histoire. Merci à Chantal Nouvelot. Ce sont les studios de Radio France à Lyon. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Chloé Rouillon et Mayou Nguizou. Le cours de l'histoire, retrouvé sur franceculture.fr et l'appli Radio France.